à tous de l'aider. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
À la suite de l'épisode précédent. Oh non ! Oh non, 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 encore Céline Dion ! Quoi ? On n'explose pas. Le décès Lindionner nous protège encore. Alors ça, c'est vachement pratique. Oh, c'était un bon investissement. Bon, cependant, qui peut bien diffuser en permanence sur cette fréquence discrète du Céline Dion? Mais c'est ça qui perturbe ma radio depuis le départ. Ah, il faut que je trouve d'où ça vienne et je sais qui aller voir. Mais ça va être un peu long, donc je vais vous déposer là. Et on se retrouve le mois prochain, ok? Allez, zou, salut! Qu'est-ce qui se passe encore? On aurait dû pourtant rester encore en route très longtemps.
Bon, voyons voir où est-ce qu'on est arrivé. Ah, c'est l'alarme de température. Ah non, ce sont les alarmes de température.
La température extérieure de la coque est de 2310 degrés Celsius.
Wow, aucun doute, on est proche du soleil. Et même très proche sûrement. Et même peut-être un peu trop d'ailleurs. Mieux vaut sortir de là.
Ah, évidemment le moteur est en surchauffe. On est coincé.
Bon, on va au moins sortir les radiateurs pour éviter que la coque extérieure ne fonde, ça fera déjà l'affaire. Tout cela ne devrait pas durer. Enfin, pas durer, oui, mais combien de temps? Les instruments de bord sont en PLS, mais d'après ce qu'ils arrivent encore à m'indiquer, on devrait sortir de la zone dans une vingtaine de minutes. Ah, faudrait que je me trouve une occupation. Ah, justement, vous êtes là, je pensais à vous. Puisqu'on est là à attendre que la capsule daigne refonctionner, autant prendre le temps de se raconter une histoire. Et une fois n'est pas coutume, voyageons d'abord un peu dans le temps. Bon, pas physiquement puisque notre moteur principal est à l'arrêt, mais quand bien même.
Nous sommes il y a longtemps, très longtemps, vraiment très 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 longtemps, des milliards d'années dans le passé. L'espace est alors peuplé d'étoiles que nous ne verrons jamais avec nos propres yeux. Des étoiles, parfois immenses, issues de la première ou de la seconde génération d'étoiles apparues dans notre univers. Ces étoiles, en mourant, libèrent une quantité impressionnante d'éléments lourds comme l'or ou l'uranium qui dans un futur très lointain se retrouveront sur nos bijoux ou dans nos réacteurs nucléaires. Mais nous en sommes encore loin. La mort de ces premières générations d'étoiles a créé ce qu'on appelle des nuages moléculaires, composés de gaz et de poussière fine. Celui qui nous intéresse aujourd'hui se situe dans le bras d'Orion, une région de notre galaxie, la Voie lactée. Ce nuage n'est pas vraiment uniforme et des régions de celui-ci sont plus denses que d'autres, mais nous y reviendrons plus tard. Tournons-nous, pour l'instant, vers une étoile. Elle est énorme, plus de 12 fois la masse du Soleil. C'est un monstre qui paraît plutôt calme, stationnaire. Détrompez-vous, ce n'est qu'une apparence, car elle est sur le point de tirer sa révérence. Mais ce genre d'étoile très massive n'est pas du genre à mourir simplement. Non, ce genre-là s'offre un champ du cygne exceptionnel, du genre à être vu par une bonne partie de la galaxie, vous voyez? Ces étoiles-là, elles meurent en supernova. En une fraction de seconde, la lumière de l'étoile croît et devient incroyable. Elle est si brillante qu'on pourrait la voir en plein jour. S'ensuit alors une explosion titanesque qui éjecte les différentes couches de l'étoile sur plusieurs années-lumière de distance. Ce type d'événement, rare à l'échelle humaine puisqu'il n'arrive qu'environ 3 fois par siècle dans notre galaxie, va perturber notre nuage de gaz. Vous vous souvenez des régions un peu plus denses que les autres? Eh bien l'explosion va les comprimer. un petit peu, mais suffisamment pour que la gravité entre en jeu. Cette dernière va progressivement agglomérer du gaz et des poussières en petites poches qui vont elles-mêmes fusionner avec des poches un peu plus grandes, qui fusionneront avec d'autres, etc., etc. En grossissant, ces agglomérats vont migrer vers le centre du nuage. Et là, un phénomène assez drôle apparaît. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt, mais le nuage dans lequel nous nous trouvons tourne sur lui-même. Jusqu'ici, rien d'anormal, il tournait déjà avant la supernova. Mais en migrant vers le centre du nuage, les agglomérats vont changer la répartition de la masse et produire le même phénomène que celui qui apparaît lorsqu'un patineur artistique qui tourne sur lui-même rapproche les bras le long de son corps, sa rotation s'accélère. En tournant plus vite, le nuage prend maintenant les habits d'une pâte à pizza tournée par un pizzaïolo. Il s'affine et devient un disque. Dans notre nuage, devenu un disque donc, les agglomérats continuent de migrer vers le centre, formant un amas de plus en plus gros, de plus en plus dense et de plus en plus chaud. Le problème avec la gravité, c'est qu'il est difficile de la contrer et impossible de l'arrêter. Plus un objet est gros et lourd, plus il attire à lui les objets aux alentours. Le centre du nuage, devenu une énorme boule de gaz compact, agit de la même façon avec les agglomérats restés dans le nuage, mais aussi avec lui-même. On appelle cela un effondrement gravitationnel. Les particules à l'extérieur de la boule sont contraintes à migrer vers le centre de celle-ci. Le problème, c'est qu'à force de compacter toutes ces particules, eh bien, il n'y a plus de place au centre. Le hic, c'est que la gravité en a rien à faire et les pousse quand même à aller plus loin. Ces particules, qui sont en fait des atomes d'hydrogène principalement, finissent donc par fusionner. C'est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce qu'il se passe quand une bombe thermonucléaire explose. C'est un processus qui libère beaucoup d'énergie. Cette énergie va venir contrer la gravité sans pour autant la surpasser. On se retrouve donc avec une sorte de bombe thermonucléaire géante permanente, mais qui n'explose pas, grâce à un équilibre précaire entre les forces de gravité et celles générées par la fusion des atomes d'hydrogène. On appelle cela l'équilibre hydrostatique. L'énergie colossale générée par la fusion déchire l'obscurité des environs, le nuage est alors devenu une étoile, nous sommes il y a 4,6 milliards d'années et notre soleil vient d'émettre ses premiers rayons. Bienvenue Spoutnikériens, à bord de notre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Aujourd'hui, on s'ouvre les portes de notre Versailles stellaire, bienvenue au royaume du Roi Soleil. Tiens, les capteurs captent une balise de détresse, voyons voir. C'est un vaisseau civil, ils émettent sur toutes les fréquences.
Appel à tous les vaisseaux, ici le cataracte. Je répète, ici le cataracte. Nos systèmes principaux ont été mis hors d'usage par un signal malveillant et que situation est critique. Nous demandons une assistance immédiate.
Nom de Dieu, encore Céline Dion. Sans le Céline Dionneur, ils sont perdus. Ah, ils sont de l'autre côté du soleil. On est les plus proches, on devrait pouvoir arriver à temps. Mais avec nos moteurs, voyons voir. Bon, clairement, ils vont pas apprécier, mais on n'a pas vraiment le choix. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez pris dans votre sac à dos votre plus efficace crème solaire, car notre capsule s'apprête à sortir sa botte secrète. Nos moteurs, étant plus ou moins refroidis, nous sommes sur le point d'activer le module Icar et nous entourer d'un champ d'énergie. Le but ? Rien de moins que de traverser l'étoile de part en part. Les lois de la physique à l'intérieur du vaisseau pourraient mettre des voiles, mais pour vous, la capsule ne recule devant rien. Alors, accrochez-vous et appréciez le spectacle.
Capsule à cataracte, nous faisons route vers vous, tenez bon !
Notre étoile est une naine jaune, un astre assez modeste vis-à-vis des géantes rouges et autres super-géantes bleues qui peuplent l'univers. Sous cette appellation peu flatteuse se cache en réalité un mastodonte, car non content de briller par son éclat, notre soleil est brillé aussi par ses caractéristiques. Par sa masse d'abord, car avec ses 2 10 puissance 30 kg, c'est-à-dire 2 avec 30 zéros derrière lui, notre étoile n'accapare pas moins de 99,85% de la masse de tout le système solaire, le reste étant pour 2/3 réservé à Jupiter. Nous ne sommes qu'une poussière au sein de notre propre système solaire. Sa taille est aussi exceptionnelle. Souvenez-vous de Saturne lors de notre premier voyage. Il fallait alors déjà 21 Terres pour couvrir le diamètre des anneaux. Pour couvrir les 1 392 684 km de diamètre du Soleil, il n'en faudrait pas moins de 110. Et comment mentionner le Soleil sans parler de la chaleur qu'il dégage, capable de carboniser Mercure et de maintenir la vie sur Terre ? Mais pour en savoir plus, laissons-nous porter par le voyage de notre capsule. Pendant que nous parlions, nous sommes déjà arrivés au cœur de l'étoile, dans son noyau. C'est la source de la puissance du Soleil, mais aussi de tous les superlatifs. Il représente un quart de la taille de l'astre, et sa température y avoisine les 15 millions de degrés Celsius. La matière y est si dense, si comprimée, que si l'on en ramenait une cuillère à café sur Terre, elle pèserait presque un kilo. Si le Soleil n'est pas vivant, il n'en est pas moins très gourmand, puisque ce ne sont pas moins de 619 millions de tonnes d'hydrogène qui sont fusionnées chaque seconde, pour former quelque 614 millions de tonnes d'hélium. Un processus à la source des photons, les particules à l'origine de la lumière qu'il émet. Tenez, suivons ces photons. Ces photons voyagent à 300 000 km par seconde, mais ils ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au-dessus du noyau, il y a la zone radiative. Là, la matière est tellement chahutée à l'intérieur du brasier que les particules se collisionnent sans cesse. Collision après collision, les photons avancent, reculent, puis ravancent, reculent dans une sorte de labyrinthe stellaire dont ils mettront entre 10 et 100 000 ans à trouver la sortie. Pour vous rendre compte de la difficulté de la tâche, dites-vous qu'une fois la sortie trouvée, les photons ne mettront que 8 minutes à parvenir jusqu'à nous. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car nous ne sommes pas sortis d'affaire. Au-dessus de la zone radiative, il y a la zone convective. Cette zone est responsable de la diffusion de la chaleur, grâce à un phénomène similaire à celui qui chauffe l'eau de votre casserole de pâte. La matière chaude est entraînée vers le haut, alors que la matière froide est entraînée vers le bas, formant des sortes de rouleaux de 3000 km de haut. Grâce à ce prodigieux système, on passe d'une température de 2 millions de degrés à une température de seulement 5500 degrés Celsius. À ce stade, nous sommes presque sortis d'affaire et nous atteignons la surface du Soleil, la photosphère. Un océan de plasma à plus de 5000 degrés Celsius. Un effort supplémentaire et nous voilà dans son atmosphère. Si vous pensiez que nous en avions terminé avec les hautes températures, détrompez-vous et attrapez rapidement votre meilleur antitranspirant, car la température remonte subitement à 2 millions de degrés Celsius. N'imaginez cependant pas que ce colosse possède une frontière bien définie pour son atmosphère. Pour être tout à fait honnête avec vous, l'atmosphère du Soleil englobe en quelque sorte tout le système solaire au travers de ce qu'on appelle l'héliosphère. Voyageur 1, la sonde la plus éloignée de la Terre a quitté l'héliosphère en août 2012, après 35 années de voyage à une distance de 121 unités astronomiques, c'est-à-dire 121 fois la distance Terre-Soleil. Icar commence à lâcher, dépêchons-nous de sortir de là. Ah, on est arrivé. Bon, où est-ce qu'ils sont ?
Capsule à cataracte, je ne vous vois pas sur mon radar.
Oh non, c'était un piège !
Ici le cataracte de la Fédération des Pirates Stellaires. Remettez-nous le Dessaline d'honneur où nous détruisons la capsule.
Ah les pirates, il ne manquait plus que au tableau. Ils sont bien renseignés en plus. Non seulement ils savent pour le Dessaline d'honneur, mais en plus ils ont tiré pile poil au bon endroit pour mettre hors service l'ordinateur de bord. Enfin, ce qu'il en restait.
Votre unique ordinateur de bord étant hors service, il serait assez mal avisé de ne pas obtempérer.
Justement, j'y venais. Ce que ces pirates ne savent pas, c'est qu'il y en a un deuxième d'ordinateur de bord en cas de problème, justement. Bon, pour Icar par contre, c'est mort, il ne remarchera plus, et concernant le moteur principal, il ne s'en est pas encore remis. Il va falloir les semer avec la propulsion conventionnelle. Bon. Allez hop, plein gaz! Ils nous suivent. Pas très surprenant. On va essayer de les semer en changeant d'orbite. Mais pour changer d'orbite, il nous faut plus de vitesse. Le problème, c'est que le Soleil est un puits gravitationnel particulièrement puissant. Si notre vitesse est nulle, on tombe dessus. L'astuce, c'est alors d'aller vite, très vite. Pour comprendre, imaginez-vous au sommet d'une montagne. Vous lancez une pierre, elle tombe. Vous lancez une autre pierre, plus fort, elle ira plus loin, en tombant et en décrivant une parabole. En théorie, si vous lancez suffisamment fort, la pierre pourrait même faire le tour de la Terre et revenir derrière vous. Si vous faites la même chose dans l'espace, sans frottement de l'air, la chute ne s'arrête jamais. Et vous tournez sans vous arrêter autour de la Terre. Vous êtes alors en orbite. Mais une fois en orbite, vous pouvez lancer encore plus fort et aller plus loin. Si vous lancez trop fort, vous atteindrez ce qu'on appelle la vitesse de libération de la Terre, c'est-à-dire une vitesse suffisamment grande pour vous affranchir de l'attraction terrestre. C'est comme cela qu'on envoie des sondes vers d'autres mondes. La vitesse de libération de la Terre est de 11 mètres par seconde, celle du Soleil est de 617. Autrement dit, on ne quittera pas l'orbite solaire avec les moteurs de la capsule, mais on peut au moins s'en éloigner un peu. Regardez sur le côté! Vous l'avez vu passer? C'était Parker Solar Probe, l'engin spatial le plus rapide jamais fabriqué par des humains. Ce solide gaillard nous a doublé en un clin d'œil. Il tourne lui aussi autour du Soleil et s'approche à seulement 9 rayons solaires de sa surface. C'est proche, vraiment très très proche. Pour survivre à une telle performance, il est muni d'un épais bouclier thermique, soumis à une température maximale de 1400 degrés Celsius. Cela permet à ses instruments scientifiques placés juste derrière lui, à quelques dizaines de centimètres à peine, de fonctionner à la confortable température de 30 degrés Celsius. Pas mal, non ? Parker fonctionne avec des panneaux solaires, mais cela va sans dire qu'à cette distance du Soleil, il n'a pas intérêt à les montrer d'un peu trop près. Mais me direz-vous, pourquoi envoyer une sonde spatiale si près du Soleil ? Eh bien, la réponse tient en deux mots : vent solaire. Parker Solar tient son nom d'Eugene Parker, un astrophysicien américain qui, dans les années 50, fut le premier à prédire l'existence des vents solaires. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Car les vents solaires sont à l'origine de pas mal d'événements dans le système solaire et peuvent aussi nous causer quelques désagréments dans notre vie de tous les jours. Je m'explique. Les vents solaires sont issus des jets de plasma qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil que nous survolions tout à l'heure. Ils sont composés d'ions et d'électrons, et le Soleil en éjecte environ 1 million de tonnes par seconde dans toutes les directions. Ces particules sont dangereuses pour la vie, car elles la soumettent à une dose de radiation très élevée. Mais pas d'inquiétude, sur Terre, le champ magnétique nous protège et empêche la majeure partie des vents solaires d'atteindre le sol. Le champ magnétique n'est cependant pas uniforme et a notamment quelques points faibles au niveau des pôles. Ces faiblesses permettent à une partie du vent solaire d'interagir avec la haute atmosphère et est à l'origine des fabuleuses aurores boréales. Si le champ magnétique nous offre une sécurité bienvenue pour notre santé, nous ne sommes pas complètement à l'abri des effets du vent solaire. Lorsque le Soleil a, disons, une poussée de croissance, cela donne des tempêtes solaires. Pendant ces tempêtes, il peut éjecter sur un temps très court 1000 fois la quantité de particules qu'il éjecte en temps normal. Si cela est toujours sans danger pour la vie sur Terre, notre technologie, elle, apprécie moyennement. Ainsi, en l'an de grâce 1965, une énorme panne de courant causée par une tempête solaire a plongé une partie de l'Amérique du Nord dans le noir pendant quelques temps, et des aurores boréales étaient même visibles jusqu'au Texas, situées sur les mêmes latitudes que l'Afrique du Nord. This is ground control to Major Tom. Really made it great. And the pipers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Choo-choo.
Le vent solaire a également accompagné l'histoire du système solaire. Ainsi, on est aujourd'hui presque certain qu'à une époque reculée, Mars a accueilli de l'eau liquide, voire même des océans à sa surface. L'hypothèse la plus répandue étant que la planète rouge, dépourvue de champs magnétiques, aurait perdu peu à peu son atmosphère sous les coups de butoir du vent solaire, et par la même occasion, sa capacité à accueillir de l'eau liquide à sa surface. L'étude des vents solaires est donc indispensable aussi bien pour nous en protéger que pour mieux comprendre son influence sur l'évolution du système solaire. Tout n'est cependant pas négatif avec le vent solaire, et il pourrait dans un futur pas si lointain propulser nos explorateurs spatiaux. Car, comme tout vent qui se respecte, une voile peut pouvoir espérer le dompter. Ainsi, en 2010, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, a déployé Icaros, un petit satellite propulsé par une voile solaire de 173 mètres carrés. Bon, il ne faut pas être pressé car la pression générée par le vent sur la voile est très très faible, et pour accélérer 1 kg d'un mètre par seconde, il faut une voile de 100 000 mètres carrés. Mais le voyage spatial est avant tout une question de patience, et peut-être qu'un jour, ces voiliers d'un nouveau genre nous ouvriront la voie vers de nouveaux horizons. Notre étoile est aussi géante que fascinante. Si elle trône au milieu du système solaire depuis des millénaires, elle finira un jour par manquer d'air, ou plutôt d'hydrogène pour être exact. Aujourd'hui, elle est composée à environ 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Mais à mesure que ce dernier apparaît par la fusion du premier, notre étoile épuise son carburant et a déjà brûlé la moitié de sa batterie. Dans 4,5 milliards d'années, le Soleil aura brûlé la majeure partie de son hydrogène et commencera à fusionner l'hélium en carbone. Ce changement de carburant entraînera un gonflement spectaculaire du Soleil qui finira par englober Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Mais avant cela, l'augmentation de température aura fait glisser la zone habitable au-delà de l'orbite terrestre, signant définitivement la fin de la vie sur notre petit point bleu. Les lunes, aujourd'hui glacées des géantes gazeuses, pourraient alors un jour devenir un nouvel oasis pour l'humanité si tant est qu'elles se donnent les moyens de survivre jusque-là. Quand l'ensemble de l'hélium aura été transformé en carbone, ça sentira définitivement le sapin pour le roi Soleil, car incapable d'initier la fusion du carbone en éléments plus lourds comme le néon, le sodium ou le magnésium, le Soleil éjectera alors ses couches externes pour former une nébuleuse planétaire d'où peut-être émergeront un jour de nouvelles étoiles. Le cœur du Soleil, à l'heure à nu, sera alors devenu une naine blanche, un corps chaud d'environ la taille de la Terre qui refroidira inexorablement jusqu'au néant. Ainsi se referme donc ce carnet de voyage du Soleil, cette naine au cœur chaud dont le destin est intimement lié à celui de notre monde. Bon, Parker Solar Probe nous a définitivement semés pour continuer son importante mission d'étude des vents solaires, mais plus important encore, il semblerait que nous ayons réussi à semer les pirates. Ah, les pirates sont semés, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie du problème. Comment ont-ils pu avoir autant d'informations ? Sur mon précieux chargement d'abord, mais aussi sur les systèmes de la capsule. D'ailleurs, c'est probablement eux qui ont interféré avec ma trajectoire pour m'arrêter proche du Soleil. Ah, et ce signal qui diffuse toujours du Céline Dion en continu dans le système solaire. Toute cette affaire commence à devenir bien complexe. La première chose à faire est d'abord de savoir qui émet ce signal, et surtout d'où. Pour ça, je dois poursuivre ce que j'avais entrepris avant cet arrêt impromptu. Il me faut trouver ce personnage, le décodeur. Bon, j'y vais. Je vous dépose là et on se retrouve dans un mois, d'accord ? Allez, salut ! Pour écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutnitaire, toutes les émissions, avec en bonus quelques précisions.